Seigneur, je te prie pour que ce matin, je puisse transmettre ta parole le mieux possible. Et s'il y a des choses qui ne sont pas justes, eh bien, que tu les fasses oublier dans l'esprit de mes frères et sœurs ici présents. Amen. J'ai choisi comme sujet, la souffrance pour Christ. Et nous lirons pour cela 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 19. Alors déjà, comme d'habitude, je perds toujours ma souris. Il faut que je la retrouve. Sans quoi, ah voilà, ça y est. Donc nous continuons notre étude sur la première lettre de Pierre et plus précisément sur le chapitre 4, avant-dernier chapitre de l'épreuve, de l'épître, pardon, lapsus révélateur. Et à Pontcharra, nous faisons exceptionnellement l'impasse sur les versets 7 à 11. Alors c'est tout simplement pour des raisons d'organisation, de calendrier, des cultes. 1 Pierre 4, versets 7 à 11 est aujourd'hui présenté à Brignoux et vous le sera présenté après moi. Je crois que c'est au mois de... le 3 mai, je crois que c'est le 3 mai. Dans le passage précédent qu'on a vu la semaine dernière, Pierre nous encourageait à persévérer, à faire le bien selon Dieu, à faire ce qui est juste, même lorsque on est confronté à la souffrance, à l'exemple de Jésus. Et aujourd'hui, on ne va pas tellement changer de dynamique, on va rester un petit peu dans ce thème. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, Michael avait parlé d'une personne qui avait été un exemple, vous vous rappelez du nom et du prénom de la personne, c'est Dédé, les initiales. Ça vous dit quelque chose ? De Desmondos, effectivement, qui avait été exemplaire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui est fictive, hein, ce n'est pas une vraie histoire, mais pour introduire ce culte, je vais vous raconter une petite histoire fictive, ce n'est pas la vérité, mais ça pourrait l'être. Il était une fois, il y a 2000 ans en arrière environ, un jeune chrétien d'Asie mineure nommé Marcus. Marcus n'est ni riche, ni brillant, ni influent. Il travaille comme artisan dans un atelier. Mais depuis qu'il suit Jésus, les choses ont changé. On se méfie de lui. On l'exclut. On se moque de sa foi. On lui dit, mais tu crois à des balivernes, à des fables pour enfants. Là, je paraphrase Michel Onfray. Hein, mais tu crois à des balivernes. D'autres lui disent au contraire, mais tu es athée, tu ne crois pas à la divinité de notre corporation, tu ne participes pas au culte, donc tu es un mécréant à leurs yeux. Tu es athée. Ce n'est pas facile pour lui. Oh, il n'est pas persécuté par l'épée, on ne lui tape pas dessus, mais par des mots, des regards et le rejet. Et chaque fois, chaque jour, il sent son statut social s'effriter un peu plus. Il a même parfois honte d'être chrétien, honte de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu parce qu'il est rejeté, parce qu'on le met à l'écart, parce que finalement, il est insignifiant aux yeux de ses collègues. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Et un soir, Marcus rentre chez lui, épuisé. Il s'assoit et murmure. « Seigneur, pourquoi est-ce si difficile de te suivre ? Pourquoi cette hostilité et pourquoi cette honte ?» Et c'est à des croyants comme Marcus que Pierre écrit. Écoutons maintenant ce qu'il leur dit. Lisons Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Alors, le message central de ce texte, c'est la souffrance, ce que j'appelle la souffrance chrétienne, c'est la souffrance pour Christ, hein, glorifie, purifie et sanctifie. En effet, Pierre va montrer que cette souffrance, loin d'être absurde, glorifie Dieu, purifie le croyant et le fait grandir à l'image de Christ. Et nous allons voir cela en trois points. D'abord, comprendre la souffrance. Ensuite, vivre la souffrance. Et puis, le troisième point qui est un peu lié au précédent, traverser la souffrance. Personne n'explique toute la souffrance. Personne. Mais Pierre nous aide à comprendre au moins celle que vivent ceux qui suivent fidèlement le Christ. Et c'est notre premier point, comprendre la souffrance. Pourquoi souffrons-nous alors que nous suivons Christ ? Pour faire le bien. Nous essayons de faire le bien, ce qui est juste. Pourquoi ? C'était la question brûlante de Marcus, des premiers lecteurs de Pierre, probablement, et aussi la nôtre, n'est-ce pas ? Elle exprime d'abord notre surprise. Pourquoi ? Alors Pierre commence par nous dire, eh bien, ne soyez pas surpris. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Waouh, la persécution n'est pas étrange. C'est normal, il nous dit. Mais Jésus l'avait annoncé à plusieurs reprises. Le monde le rejetterait et rejetterait évidemment ceux qui lui appartiennent, ceux qui le suivent fidèlement, ceux qui cherchent à faire, à l'imiter, à faire comme lui. La persécution n'a donc rien d'étonnant. Elle vient du rejet du monde envers Christ et a fortiori envers ceux qui lui appartiennent et le suivent fidèlement. Mais Pierre, alors ça on a compris, on n'est pas surpris, bon ok, très bien, Jésus l'avait dit, on comprend, mais Pierre il va un peu plus loin. Là, je ne sais pas si vous avez vu l'image que j'ai voulu mettre, la maison renversée. Il renverse totalement notre logique humaine. Il renverse notre logique humaine. Alors que logiquement, comme Marcus, nous devrions être abattus face à une persécution injuste. Pierre nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est pas facile à entendre ça. Hein ? C'est pas tout à fait notre logique. Évidemment, la joie ne vient pas de la souffrance elle-même, mais du privilège de partager un peu des souffrances de Christ. Lui qui a souffert le premier en faisant ce qui est juste jusqu'à mourir sur une croix. Le chrétien persécuté pour sa foi, d'une certaine façon, prend part au même, non pas on dit aux souffrances de Christ, mais au même genre de souffrance que Jésus. Il souffre en faisant ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et on l'a vu la semaine dernière, on sait, Pierre n'est pas un théoricien seulement. Il sait de quoi il parle, puisqu'en Actes 5, les apôtres, battus et menacés, repartent en se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Enfin, la joie naît de l'espérance de la vie éternelle avec Dieu qui sera révélée à la fin des temps. Le chrétien persécuté pour la justice, goûtera alors d'une joie débordante la récompense promise. D'une certaine façon, cette persécution à cause de Christ est un signe tangible de notre appartenance à Christ et donc de notre héritage à venir. Paul écrit en Romains 8, verset 18, un verset qu'on connaît tous, qu'on a du mal à lire, mais qu'on connaît, qu'on a souvent lu et relu. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. L'épreuve de la persécution démontre que ceux qui restent fidèles à Christ sont sur le chemin qui mène à la récompense éternelle. Cette certitude d'une joie future permet déjà aux chrétiens de se réjouir au cœur même de l'épreuve. Insultés et traités injustement parce qu'ils portaient le nom de Christ, les croyants sont dits heureux. Non d'un bonheur ordinaire, mais du privilège d'être approuvé par Dieu dans une souffrance vécue pour Christ. Ce que le monde considère comme honteux est pour Dieu un honneur. Ceux qui sont persécutés sont honorés par Dieu. Matthieu aussi, on le lit, c'est pareil, c'est pas des versets qu'on aime tellement lire tous les jours. Matthieu rapporte les paroles de Jésus dans son chapitre 5, au verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est-à-dire pour ce qui est juste aux yeux de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus y ajoute au verset 11 et 12 de ce même chapitre que ceux qui sont insultés et persécutés à cause de lui peuvent se réjouir, car leur récompense est grande dans les cieux. Une autre raison pour être heureux, c'est que l'esprit de gloire, la présence même de Dieu, repose sur les croyants, d'une manière particulière, leur donnant force et courage au cœur de l'épreuve. Alors, on va essayer de résumer ce premier point, qui n'est pas facile à entendre. Je ne sais pas si pour vous c'est facile. Pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai passé beaucoup de temps et c'est moi qui l'ai choisi, ce thème. Donc, c'est de ma faute. Mais c'est vraiment un passage difficile d'un certain côté, mais encourageant d'un autre. À la fois une difficulté, mais un encouragement. Et on va résumer ce premier point en disant que, alors que nous devrions être surpris par la persécution, parfois abattus, parfois honteux, Pierre renverse notre logique. Elle nous en propose une autre totalement différente. Ne soyez pas surpris, premièrement. Jésus avait annoncé la persécution injuste. Ensuite, réjouissez-vous. Vous êtes jugés dignes de participer aux souffrances de Christ. Enfin, vous êtes approuvés par Dieu. L'Esprit de gloire repose sur vous, vous donnant force et courage devant l'épreuve, mais aussi attestant que vous êtes enfant de Dieu, donc que vous êtes sur le bon chemin, celui qui mène à la vie éternelle. Et puis, Dieu est glorifié, même lorsque le croyant est méprisé. Et ensuite, un encouragement à regarder le royaume de Dieu à venir, enfin, le royaume de Dieu déjà présent à travers le monde, à travers l'Église, mais regardez la gloire à venir. Regardez ce qui nous attend. Comme disait Paul, les souffrances ne sont rien face à la gloire à venir, qui est une récompense destinée à ceux qui sont restés fidèles au Christ. Donc voilà un encouragement. Donc ne soyez pas surpris. Si vous êtes surpris, ne soyez plus surpris. Réjouissez-vous, si vous êtes malheureux, réjouissez-vous, non pas de souffrir, mais d'être approuvé de Christ et de souffrir pour lui, d'une certaine façon, pour son nom, pour la justice. Rappelons-nous que nous sommes approuvés de Dieu et regardons aussi la gloire à venir. Donc voilà, déjà des éléments. On va passer au second point, même si j'ai déjà amené des éléments pour comment vivre, sur la question comment vivre dans la souffrance. Comprendre la souffrance, c'est clair, c'est bien, on l'a vu, on a compris. Mais maintenant, il faudrait qu'on comprenne comment, qu'on voit comment vivre la souffrance, même si j'ai déjà donné quelques éléments. Alors, d'abord, Pierre commence par une distinction assez importante, et voire même essentielle, assez simple, mais décisive. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Alors, Pierre évoque des comportements qui pouvaient attirer la persécution, hein, comme l'agitation politique, l'opposition aux autorités, puis les délits de toutes sortes, hein, le vol, le meurtre même, ou encore le fait de se mêler des affaires d'autrui. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ça, mais il a choisi, il l'a mis dans la liste, dans sa liste. Mais tout au long des trois chapitres précédents, Pierre demande plutôt aux chrétiens vivant dans une société non chrétienne de travailler fidèlement, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'honorer le Christ et de mener une vie vertueuse, on l'a vu la semaine dernière, sans chercher à renverser la culture locale. Alors, nous vivons dans un pays... Alors, certains disent... C'est pas moi, mais certains disent que nous vivons dans un pays communiste où c'est le seul pays où le communisme a réussi. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais les communistes et le christianisme, ça fait jamais bon ménage. Donc, ne soyons pas surpris de souffrir aussi pour des raisons politiques. C'est pas pour autant que nous devons nous opposer politiquement. Alors, violemment, je veux dire. Ce que on nous demande, c'est d'honorer Christ en menant une vie vertueuse. Alors, je vous propose deux exemples contemporains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marc ici ? Personne ne s'appelle Marc. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui s'appelle Claire ? Non plus. Bon, alors, je vais vous parler de Marc. Marc est chrétien et il se dit persécuté parce que ses collègues le mettent de côté. Mais en réalité, il critique tout le monde, il se mêle de tout et crée des tensions. Il pense que parce qu'il a l'Esprit de Dieu, il peut en faire qu'à sa tête, sans écouter son responsable et sans vivre, sans travailler en équipe. Et ce qu'il vit n'est pas une souffrance pour Christ, vous le comprenez bien, mais simplement le résultat de son attitude. Claire, elle, travaille avec douceur et intégrité. Elle refuse de participer à des pratiques douteuses et sa droiture dérange. Ah oui, ça dérange. Quand on agit selon le modèle de Christ, en même temps, on expose. Les autres se voient exposer leur péché. Donc on se moque d'elle. On la met sous pression. Et cette souffrance n'est pas le fruit d'une faute, mais le prix de sa fidélité au Christ. Donc ici, Pierre distingue deux cas de figure. C'est évident, mais c'est bien de le rappeler. La souffrance conséquence de nos fautes ou de nos mauvais comportements et la souffrance injuste, celle qu'on subit injustement, vécue parce que nous voulons rester justes dans notre attitude. Nous voulons faire le bien dans notre attitude et rester conformes à ce que le Christ nous enseigne. Donc Pierre revient ici sur un thème. J'en discutais avec Michel la semaine dernière. C'est pas évident l'épître de Pierre parce qu'on a l'impression c'est comme un peintre qui fait d'abord une esquisse, il peint toute sa toile, puis il revient mettre des touches là pour affiner son tableau jusqu'à ce que son tableau soit fini. C'est un peu comme ça l'épître de Pierre. Il en met un peu partout, puis après il revient et donne un certain détail sur ce thème, puis un autre sur encore d'autres détails. Et là, Pierre revient sur un thème qu'il a déjà abordé au chapitre 2, versets 19 à 23, « Souffrir pour le bien, non pour le mal », où il dit « Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. » On revient donc sur ce qu'il a déjà dit au chapitre 2. Alors, dans le cas de Marc ou de Claire, on peut se sentir honteux par le fait qu'on est rejeté, et ça nous est tous arrivé. Mais parfois, je confesse, j'ai eu des attitudes comme Claire, mais il m'est aussi arrivé d'agir comme Marc. Ah oui, parce que même les prédicateurs ne font pas toujours le bien. parce qu'en fait, c'est plus facile d'agir comme Marc. On se conforme aux autres personnes. On est comme eux. Alors moi, je n'étais pas tout à fait comme Marc, mais j'essayais de passer incognito dans la masse. Et pour cela, on se taisait, on ne disait rien. Lorsqu'il y avait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Donc, oui, peut-être que nous avons tous un peu de Marc et un peu de Claire. J'espère qu'on a plus de Claire que de Marc, mais on peut avoir des deux. Donc, je disais que dans le cas de Marc ou de Claire, on peut se sentir honteux. Pour Marc, c'est salutaire. Elle lui permettra peut-être de se remettre en question. Mais pour celui qui, comme Claire, souffre parce qu'il a agi en chrétien, Pierre dit qu'il n'en ait pas honte, qu'il n'en ait pas honte. Ce que le monde méprise est pour Dieu un honneur, et inversement, bien sûr. Alors, comment vivre cette souffrance ? D'abord, ne pas en avoir honte. La honte doit changer de camp. Mais il va plus loin, puis rendre gloire à Dieu. Alors, est-ce que rendre gloire à Dieu, c'est chanter « Nous, Seigneur, nous te rendons gloire. Oui, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. » Oui, c'est ça, mais pas que. Chez Pierre, c'est plus grand que ça, c'est plus que ça. Chez Pierre, rendre gloire à Dieu, c'est vivre fidèlement, humblement et courageusement dans la justice selon Dieu, tout en étant confronté à l'injustice du monde. Donc, rendre gloire à Dieu, c'est faire le bien, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Et c'est ce que l'apôtre, finalement, ne cesse de répéter tout au long de son épître. Pour terminer, on peut se rappeler que Pierre nous dit déjà au chapitre 2, verset 23, de ne pas chercher à se venger. Alors, ce n'est pas dans le texte que nous avons lu, mais naturellement, lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, nous avons tendance à nous venger, à rendre le mal pour le mal, et non pas le bien pour le mal. Bon, avec l'âge, ça s'améliore, l'Esprit de Dieu travaille et on change d'attitude. Mais il peut, lorsqu'on est vraiment très, très blessé, nous arriver de vouloir nous venger. Mais Pierre nous dit, déjà au chapitre 2, toujours verset 23, d'imiter Jésus, lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisant pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors, que dire sur ce deuxième point ? C'est de résumer un petit peu tout ça. Nous avons tendance, c'est naturel, à voir la persécution partout. Mais Pierre nous invite à distinguer les souffrances. Certaines sont les conséquences de nos comportements. Et d'autres sont réellement vécus pour le Christ. Nous aurions spontanément honte d'être écartés, d'être rejetés, d'être mis à l'écart, d'être parfois insultés. Mais Pierre nous dit au contraire de ne pas avoir honte, car souffrir en tant que chrétien est un honneur pour Dieu. Nous serions enclins à nous plaindre, mais Pierre, surtout si on est français, nous serions enclins à nous plaindre, mais Pierre nous invite à rendre gloire à Dieu par une attitude fidèle, humble et courageuse dans l'épreuve. Et nous voudrions rendre le mal pour le mal, mais Pierre nous invite à imiter Jésus qui s'en remettait à Dieu au lieu de riposter. En vivant ainsi la souffrance, le chrétien, finalement, marche sur le chemin de la sanctification, à l'image de Christ. Et Dieu est glorifié. Oh, bien sûr, on ne glorifie pas Dieu en souffrant, c'est pas du tout le sujet, mais en souffrant comme Christ. Souffrir pour Christ n'est pas une honte, mais un honneur. Mais Pierre va encore plus loin. Il ne nous dit pas seulement comment vivre la souffrance, mais comment la traverser. Alors, c'est lié, hein, vivre la souffrance, la traverser, la comprendre, tout ça, vous avez vu, ce n'est pas complètement disjoint. Ça se recoupe. On va voir comment la traverser selon Pierre. Alors, Pierre conclut en évoquant comment on peut traverser cette souffrance. En effet, alors là, ce n'est pas la partie la plus facile du texte. C'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, et il s'inclut lui-même, hein, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors là, Pierre explique que la souffrance, la persécution, fait partie du jugement qui commence par la maison de Dieu. Alors il ne s'agit pas de condamnation, mais d'un feu qui purifie. Toute la Bible dit la même chose. L'épreuve affine la foi. On l'a chanté tout à l'heure, l'encre de ma foi, c'était ça ? On a chanté des chants qui étaient très proches du texte de Pierre, c'est bien choisi, on a bien travaillé, Rebecca. L'épreuve affine la foi comme l'or dans le feu. Combien de fois on l'a lu ? On l'a vu récemment dans 1 Pierre, hein, au début, ainsi que dans l'épître de Jacques. Pierre ne dit pas que les croyants subiront la même fin que les impies, au contraire. Si le juste est sauvé avec peine, combien plus terrible sera la fin de ceux qui rejettent l'Évangile ? Mieux vaut subir l'épreuve qui purifie l'Église que la souffrance éternelle de ceux qui refusent Dieu. Jésus lui-même a enduré une souffrance injuste qu'il a remplie de sens en sauvant l'humanité. Et aujourd'hui, il accompagne les siens par son esprit. Ainsi, comme pour Jésus, la souffrance du chrétien persécuté a un sens. Pierre s'inscrit dans une longue tradition biblique pour nous dire que la souffrance n'est pas un accident, mais un processus divin de purification. Alors maintenant, Pierre conclut en montrant comment traverser la souffrance. Et là, vous avez vu un méga coffre-fort, vous avez dit, mais qu'est-ce qui va nous sortir de cette histoire ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, le suspense est à son maximum, mais je vais vite le résoudre. Alors voilà ce qu'il nous dit. Selon la volonté de Dieu, sont appelés à son... Pardon, Pierre conclut en montrant comment traverser la souffrance. Ceux qui, selon la volonté de Dieu, sont appelés à s'en remettre à lui comme à un créateur fidèle en faisant ce qui est bien. Et le verbe, je vais insister sur le verbe « remettre », qui a un lien avec le coffre-fort. En fait, le mot original en grec évoque un dépôt en lieu sûr. Confier sa vie à Dieu, c'est comme on confierait son argent à une banque inviolable. C'est placer sa vie entre les mains sûres de celui qui l'a créée, qui la connaît parfaitement et veille sur elle avec une fidélité inébranlable. Voilà l'image. Vous pouvez retenir peut-être, sur le remettre. Et puis, d'une certaine façon, remettre sa vie à Dieu, c'est bien sûr faire le bien. C'est aussi faire le bien, mais et c'est ressembler au Maître Jésus. Et ça évoque la sanctification, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dernier point ? Bon, d'abord, la souffrance a un sens. Parfois, on se pose la question, pourquoi ? Eh bien, on n'a pas toujours la réponse au pourquoi, mais il y a un sens, et Dieu le connaît. Dieu utilise l'épreuve de la persécution comme un feu purificateur. Hein, on l'a vu. Et il insiste bien pour nous encourager que, évidemment, le jugement commence par la maison de Dieu. Et si on est sauvé avec peine, parce que, bien sûr, traverser la persécution... Ça se fait parfois avec peine. Enfin, je ne sais pas vous. Mais c'est pas si... Bon, nous, on n'est pas trop exposés à la persécution, mais ceux qui le sont, ils souffrent énormément. C'est avec peine. La purification commence par la maison de Dieu. Et ce n'est pas une condamnation, mais une façon de nous épurer, de nous préparer à une vie plus sainte. Dit autrement. Ensuite, bon, l'épreuve affine la foi. Ce n'est pas seulement l'épreuve de la persécution, mais en général, c'est une réalité qu'on connaît bien dans notre vie de quotidienne, même sans considérer l'épreuve de la persécution. On se rend compte que l'épreuve affine notre foi, parce qu'elle nous pousse dans nos retranchements. Et le dernier retranchement, dont on ne peut plus rien faire, ben, c'est nous confier à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Et puis la souffrance du juste contraste avec celle des impies. Il faut qu'on ait ça en tête, qu'il vaut mieux passer par ce genre de purification que de subir le châtiment final. Et enfin, peut-être le plus important, dans la souffrance, s'en remettre au Créateur, s'en remettre, comme on remettrait notre argent, si on en a beaucoup ou peu importe, dans une banque qui est inviolable. S'en remettre au Créateur. Et puis, continuer fidèlement à glorifier Dieu en faisant ce qui est bien, à l'exemple de Jésus qui a donné un sens à la souffrance injuste. Alors, j'ai dit plusieurs fois la même chose dans les trois points. C'est volontaire. Ce n'est pas parce que je suis devenu gâteux. C'est volontaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ensemble, quelques points de ce passage. Je vous propose trois choses. D'abord, comprendre la souffrance. C'est reconnaître qu'elle fait partie de la foi, de notre vie de foi. Alors, purification, maturité, bien sûr. Ça, c'est comprendre la souffrance. Vivre la souffrance, c'est d'abord refuser la honte est glorifier Dieu en faisant ce qui est bien, juste aux yeux de Dieu. Voilà comment vivre la souffrance. Et enfin, traverser la souffrance, c'est s'en remettre à Dieu, au Créateur fidèle. Dit autrement, comprendre, vivre et traverser la souffrance, c'est accueillir l'épreuve comme un lieu de transformation où Dieu purifie nos cœurs, notre cœur, fortifie notre foi, et conduit vers la joie promise à ceux qui lui restent fidèles. Oui, la souffrance chrétienne glorifie, purifie et sanctifie, parce que Dieu y est à l'œuvre. Amen. Seigneur notre Dieu, Créateur fidèle, nous te rendons grâce pour ta parole vivante, même si elle fait parfois mal. Merci de nous rappeler que la souffrance vécue à cause de Christ n'est ni absurde ni vaine, mais qu'elle a un sens dans tes mains. Lorsque l'épreuve nous surprend, aide-nous à ne pas être déstabilisés, mais à nous souvenir que Jésus lui-même a marché ce chemin avant nous. Donne-nous un regard renouvelé afin que nous comprenions que tu utilises l'épreuve pour nous façonner à l'image de ton Christ. Quand nous souffrons injustement, garde-nous de la honte et de l'amertume. Aide-nous à te rester fidèles en te glorifiant, non pas par des mots seulement, mais par une vie droite, humble et fidèle, même au cœur de l'adversité. Accorde-nous la grâce de faire le bien, sans rendre le mal, et de t'imiter, toi Jésus, qui t'es remis entièrement entre les mains du Père. Seigneur, pour celles et ceux qui traversent aujourd'hui une épreuve particulière, sois leur refuge et leur force. Apprends-les à s'en remettre à toi, que ton esprit de gloire repose sur eux, qu'il les affermisse, les console et les conduise dans l'espérance. Nous voulons nous en remettre à toi, comme au Créateur fidèle, en choisissant de te faire confiance et de persévérer dans le bien. Tu es notre essentiel, nous l'avons chanté tout à l'heure. Tu es aussi l'encre de notre foi. Alors conduis-nous sur ce chemin de la sanctification jusqu'au jour où ta gloire sera pleinement révélée et où toute souffrance laissera place à la joie promise. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour l'éternité. Amen.